ce générique pour annoncer la venue de mon invité, donc Johanna Glaize, romancière. Bonjour Johanna.
Bonjour Odile.
Alors bienvenue sur Fréquence Mistral, je suis très heureuse de faire votre connaissance en même temps peut-être que les auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, donc, vous allez nous parler de romans, bien sûr, puisque c'est déjà l'apparition de votre quatrième roman. Alors, comment est né déjà vos débuts dans l'écriture de romans, de quand ça date?
Alors déjà, merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être là. Le début, je ne me rappelle pas exactement quand c'est, mais c'est assez ancien, parce que depuis toute petite, je voulais écrire des romans, et je voulais vraiment en faire mon métier. Et alors plus tard, quand j'étais au collège, que j'étais adolescente, qu'on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je disais que je voulais écrire des romans. Et on me disait, c'est bien, mais alors, trouve-toi un vrai métier et tu feras ça à côté. Alors, sauf que moi, je voulais pas faire ça à côté, je voulais vraiment en faire mon métier. Donc, c'est vraiment, je sais pas de quand ça date, mais j'ai ça depuis que je suis toute petite. Et je crois que mon premier roman, je l'ai commencé, j'avais 8 ans. Alors il y avait vraiment chapitre 1, alors j'avais pas fini, mais voilà, ça parlait de trucs que peut écrire une écolière. Et l'autre jour je réfléchissais à ça, j'ai remarqué que je crois qu'il n'y a pas eu un seul moment dans ma vie, en tout cas depuis que j'ai 8 ans, où j'ai pas été en train d'écrire un roman. J'ai toujours un roman sur le feu.
Donc est-ce qu'on peut revenir à la première édition, en fait, le premier roman édité, le sujet, et si on peut faire un petit point sur les...
Oui, en fait, on peut faire un point sur les trois premiers parce que c'est une trilogie. Mmh. Et donc, le premier roman, il est sorti en 2016, donc ça fait presque 10 ans maintenant. Et donc, il va avec les deux qui ont suivi, puisque ça forme une trilogie, mais chaque livre peut se lire indépendamment des autres. Donc, on n'est pas du tout obligé de commencer par le premier et de lire dans l'ordre. Ils sont conçus pour être lus dans le désordre, justement. Et donc, cette trilogie, elle parle... En fait, elle se tisse sur un fond politique et social, puisqu'elle parle de révolte, et d'une révolte violente qui se met en place pour abolir un système dont les personnages ne veulent plus et qui est rempli de restrictions de liberté. Donc c'est un roman dystopique, dans le style plutôt roman d'anticipation. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, au-delà de l'aspect politique, social, environnemental qui se passe dans ce livre, enfin dans cette trilogie, c'est vraiment ce que traversent les personnages, leurs émotions, leurs ressentis, leurs sensations, leurs questionnements, les grands basculements qui ont lieu dans leur vie, les choix qu'ils font, les questions qui se posent, en fait tout l'aspect humain et l'aspect vraiment intérieur. D'ailleurs, moi, mon premier roman, pendant longtemps, je le décrivais comme un roman d'action, parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à du thriller, parce qu'il y a pas mal de suspense, d'adrénaline, etc. Et puis il y a un de mes lecteurs, assez vite, qui m'a repris en me disant « Mais pour moi, c'est pas un roman d'action, parce qu'on est tout le temps dans la tête du personnage. C'est un roman d'introspection. » Et alors oui, il y a de l'action, mais c'est pas du tout ça qui prime, en fait, sur le reste. Et donc c'est vrai que c'est... je peux pas les présenter comme des romans politiques, même s'il y a des thèmes politiques, ni des romans d'action, même si... Il y a beaucoup d'action. Je dirais que c'est surtout des romans qui développent l'âme humaine. Et donc là, le quatrième roman, il développe aussi l'âme humaine, mais il n'a rien à voir avec cette trilogie.
Alors, quel est le sujet du quatrième roman, alors? D'abord, on va donner son titre.
Ah, oui. Alors, c'est Le Monde sous le Monde. Il sort ce dimanche, donc il est presque né. Et alors, celui-là, il se développe sur un fond non plus politique, mais fantastique. Puisque on sort un peu de la réalité, il y a du fantastique dans ce livre. Mais de la même façon que je ne pourrais pas décrire les autres comme des romans politiques, je ne peux pas limiter celui-ci à un roman fantastique. Parce que ce que je développe en dehors du fantastique, et même avant le fantastique, je dirais, c'est là encore ce qui se passe dans la tête des personnages. Tu veux que je raconte l'histoire, en fait,
Oui.
je sais pas, parce que oui, c'est un peu abstrait dit comme ça, mais l'histoire, c'est... En fait, il y a une porte qui se trouve ouverte malencontreusement sous le monde, une porte qui conduit au monde en dessous du nôtre, donc qui est un monde souterrain qu'on pourrait rattacher aux enfers, mais qui ressemble pas vraiment aux enfers tels qu'on a l'habitude de les concevoir. Donc il y a un monde avec ses propres habitants, ses propres créatures que nous on pourrait associer aux démons. Et donc l'ouverture de cette porte fait remonter à la surface, donc dans notre monde, les créatures du monde d'en bas. Et donc on va avoir affaire à un monde qui se transforme, qui se métamorphose, qui se retrouve envahi entre guillemets de tous ces habitants du monde d'en bas, de toutes ces créatures qu'on connaît pas, et pour le dire simplement, de gens qui sont étranges, qui sont étrangers. Donc ça c'est le contexte général. Et nous on suit 5 personnages qui sont liés les uns aux autres, et donc on voyage tour à tour d'un personnage à un autre. Et on suit comment eux, ils se dépatouillent avec cette situation, notamment parce que cette histoire de porte qui s'ouvre, c'est aussi une métaphore, et c'est la porte du monde d'en bas, on l'a en nous. Donc cette situation fait remonter aussi à notre surface nos propres démons. Donc tout ce qu'on a essayé d'enfouir, tout ce qu'on a dans nos souterrains intérieurs, on va dire. Et donc les personnages vont devoir faire face à leurs démons qui remontent aussi. Et on va voir comment ils évoluent, comment ils gèrent ça, comment les choses se passent pour eux.
Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces personnages-là, s'ils sont en lien, les 5 personnages?
En fait, pour les présenter très rapidement, on a Gina, qui est une femme qui a 45 ans, qui a toujours tout mené de front dans sa vie. Elle a 2 enfants, 2 filles qui sont adolescentes. Elle a un mari, une maison, un travail. Elle est enseignante, donc tout roule droit pour elle. Et puis elle, sa vie va chavirer quand son ancien directeur de thèse réapparaît, en même temps que l'ouverture de la porte. Donc elle, c'est le profil un peu de la femme très active, mais qui va se retrouver à remettre en question pas mal de choses sur cette route bien droite. Ensuite, un autre personnage, c'est son mari, Léopold. Lui, il s'occupe d'une entreprise qui est responsable de l'ouverture de la porte. Même si c'est un accident, c'est un peu à cause de lui que ça s'est passé. Et donc lui, il essaye de réparer la situation puisque il se sent un peu responsable de ce qui s'est passé. Et il a une particularité, c'est qu'il est très inquiet de tout. Et donc ça va pas s'arranger avec ces démons qui refont surface. Et là, on va avoir un personnage qui développe un peu les peurs qu'on essaye d'enfouir et contre lesquelles on essaie de se battre, mais qui refont surface tout le temps quoi qu'il arrive. Et ensuite, on a leur fille, Ren, qui elle a un peu du mal à trouver sa place. C'est un personnage androgyne. Elle se sent à l'aise nulle part en société. Elle n'arrive pas à trouver sa place, et en même temps elle voudrait être tout, et elle voudrait sortir des cadres, sortir des cases, ne pas être étiquetée, ne pas être enfermée dans quelque chose, et elle rêve d'ouverture, de liberté. Et elle va découvrir un passage secret dans la montagne qui mène au monde d'en bas. Ensuite, on a Icar, qui est lié à Léopold parce qu'il travaillait pour lui, c'était un ouvrier pour l'entreprise de Léopold. Et alors lui, il est complètement dépressif. Il fait face à une rupture difficile dont il n'arrive pas à se remettre. En fait, il se définit lui-même comme un homme de 30 ans, blanc, hétérosexuel, en bonne santé, à qui tout devrait sourire, pour qui le monde devrait être un terrain déjà conquis où il n'a plus qu'à réussir, sauf qu'il ne sait pas réussir. Et donc, il représente un peu le revers de tout ce qu'on demande aux hommes quand ils n'arrivent pas à l'accomplir. Et donc, lui, il vient de perdre son travail suite à l'ouverture de la porte. Donc, en plus de la rupture, il fait face à une période de chômage. Et il prend une décision radicale. Il décide de mettre fin à ses jours parce qu'il n'en peut plus de la vie qu'il mène. Et du moment où il prend sa décision, il va se passer quelque chose qui va l'entraîner sur d'autres voies. Et ensuite, Iris, qui, elle est complètement bloquée dans son passé. Elle n'arrive pas à vivre au présent. Et en fait, on vit l'histoire à travers ses souvenirs. Elle essaye de retrouver un bonheur qu'elle a perdu. Et pour ça, elle se lance dans une expédition complètement folle. Et elle va faire une rencontre sur la route qui va complètement métamorphoser son voyage. Donc tous ces personnages, il y en a qui sont déjà liés du fait qu'ils sont de la même famille déjà, et puis ils vont être liés du fait que les décisions qu'ils vont prendre et le chemin qu'ils vont suivre au fil de l'histoire va les amener à se croiser, les décisions des uns vont empiéter sur celles des autres, etc. Donc ça va tisser un lien entre chacun.
Ben voilà qui donne envie de le lire, Le monde sous le monde de Johanna Glaise, c'est le 4e roman. Tu veux poser une question, Tiffany?
Je me dis que Johanna peut peut-être nous préciser où se situe un petit peu l'intrigue. Est-ce que c'est, tu dis qu'on est sorti d'un monde réel, mais est-ce que ça se situe quand même, est-ce qu'on a des repères qu'on peut connaître ou pas?
Oui, pour ceux qui habitent dans la région, oui, puisque le livre il se passe principalement dans le 04. Enfin, comme tous mes livres d'ailleurs, j'aime bien situer l'intrigue par ici, parce qu'il n'y en a pas tant des livres qui se déroulent ici. Donc c'est le bassin d'Ignois, c'est du côté de Seine, là où j'habite. Ça va aussi pas mal sur le plateau de Valensole. Ça voyage un petit peu là dans le département. Et ça se passe à l'automne, parce que j'adore cette saison et j'adore l'ambiance de l'automne. Et je voulais un livre automnal, donc qui va se passer vraiment tout pendant l'automne. Et il démarre le premier jour de l'automne, donc le 22 septembre. Et les jours sont calés sur cette année-là, 2024. Donc il démarre. Alors le livre sort le dimanche 22 et il démarre un dimanche 22 septembre.
Mais qu'est-ce que c'est bien fait alors, ça? Bravo. Il n'y a pas de hasard.
Tout est ficelé.
Ça, c'est de l'organisation. Jeanne Anglaise, vous allez le dédicacer, ce livre, le présenter très prochainement un peu partout dans le département?
Oui, ouais, ouais. D'ailleurs j'ai un de mes amis et qui est aussi un lecteur du 05 et qui m'a dit « Ah, j'ai regardé tes dates, mais tu fais que dans le 04 ». Pour l'instant, j'ai pas passé la frontière dans les rencontres qui sont prévues, donc c'est tout par ici. Mais oui, bah pour les Dignois que ça intéresse, il va y avoir un apéro au plan d'eau vendredi 27. Voilà, en bonne et due forme, avec présentation du livre, il y aura des lectures, il y aura des surprises aussi musicales, et puis des dédicaces. Et pour ceux qui préfèrent la librairie, il y a la ruelle, on sera à la ruelle mardi 1er octobre pour une rencontre en librairie. Et après, il y a aussi en librairie à Barcelonnette, à Seine, il y a aussi le café associatif L'Alternateur, et chez moi aussi pour la sortie, je fais un goûter à la maison sur Seine. Mais donc voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a toutes les infos sur mon site internet.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a un tableau même avec, ça, avec vos dates de passage et lieux de passage, de dédicaces et de rencontres. Donc, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme question, Tiffany? Je te sens bien inspirée.
Moi, je pense que tu pourras peut-être donner les coordonnées du site, comme ça on peut aller voir un peu ton univers. Et peut-être que tu veux te dire un mot de ta collaboration avec Philippe Serran, parce que c'est pas uniquement des romans, mais tu es aussi...
Illustratrice.
Alors, illustratrice.
Non, c'est pas ça.
Il y a tout un projet piano-vélo dont tu veux peut-être dire deux mots.
Ah, merci. Alors, le site internet, c'est livrecommelair.com au singulier. Et donc là-dessus, on trouve tout ce qu'il faut. Voilà. Et ouais, la collaboration avec Philippe Serran, ça a démarré d'une invitation, en fait, de sa part à venir lire quelques textes sur ses concerts. Donc lui, c'est un pianiste, un chanteur et pianiste qui voyage en piano-vélo. Donc il est à vélo et il tire son piano derrière lui. Et il fait des rencontres, des concerts chez l'habitant ou dans des lieux qui sont pas des lieux institutionnels. Et il m'a invité à venir lire des textes sur un de ses concerts. Bon, si je suis complètement honnête, ça a démarré plutôt... parce que je lui ai piqué certaines de ses chansons dans mon deuxième roman. Parce que moi, je l'ai vu en concert, j'ai adoré ce qu'il faisait, ça correspondait vraiment à ce que j'étais en train d'écrire. Et comme il a un point de vue très radical sur le droit d'auteur, il dit que ses chansons ne lui appartiennent pas et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc moi, je me suis permise d'emprunter certains de ses textes et de les mettre dans mon roman. Et c'est comme ça qu'il a appris mon existence. Et donc, pour me faire pardonner, je suis allée lire des textes sur son concert et ça a été le début d'une collaboration artistique. Et cette petite invitation est devenue un spectacle. Donc, c'est un spectacle qui mélange ses chansons, des parties instrumentales, musicales et des textes qui sont extraits de ma trilogie. Et il y a aussi du dessin en cours de spectacle. On a fini par rajouter pas mal de choses parce que ça fait 3 ans qu'on tourne ce spectacle en piano-vélo ensemble. Et donc là, peut-être qu'on va finir par en créer un nouveau avec un nouvel univers. Et puis lui, il a encore pas mal de chansons en réserve. Donc voilà, on va peut-être bosser là-dessus à l'automne.
J'en reviens pas de la créativité des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes aussi maintenant. Je connaissais Manu Gallure qui a fait le tour de France à pied avec ses chansons, comme il disait, sur mon piano sur le dos. Déjà, je trouvais que c'était super. Il allait de ville en village, là où on pouvait l'accueillir à domicile, et aussi dans des salles plus grande, mais le concept est super. Et puis il y a aussi Lily Lucas dans les jeunes femmes qui fait le tour de France, je crois, en vélo avec sa guitare, elle.
C'est super.
C'est vraiment de superbes idées.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir la littérature des lieux où elle est, où on la restreint habituellement. Alors, j'adore aller en librairie et tout ça, c'est pas la question, mais je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à la faire sortir de ces milieux-là et aller à la rencontre des gens et donc de faire des rencontres chez l'habitant ou sur les marchés. Moi, je vends beaucoup mon livre sur les marchés, en fait. J'ai commencé comme ça. Tu vas à la rencontre de lecteurs qui seraient pas venus te découvrir si t'étais en librairie, parce que eux ils vont pas forcément en librairie. Et de le faire chez l'habitant aussi, c'est génial, quoi. De transformer un salon en théâtre ou en librairie l'espace d'une soirée, je trouve que c'est, enfin moi c'est ça qui m'anime pour diffuser mon livre, c'est une des façons que je préfère. Et donc c'est possible de m'inviter chez vous. si vous faites, je passe une annonce officiellement. Voilà, si ça vous intéresse, vous m'invitez, je viens vous amener du monde chez vous. Moi, j'amène mes livres et puis on crée une rencontre littéraire. Il y a besoin de rien de plus, en fait.
Super, Johanna Glaise. Eh ben, on va en profiter pour prendre vos coordonnées pour vous écrire ou. Est-ce que vous donnez une adresse mail ou...
Oui. Bah, après, le plus simple, c'est d'aller sur le site. Comme ça, il y a tout. Il y a le mail, le téléphone. Enfin,
alors, le site, donc, effectivement, Tiffany, tu as bien fait de poser la question, puisque moi, j'aurais cherché avec votre nom. Mais donc, c'est Livre au singulier.
Oui.
Livre comme l'air, pardon.
Oui, Livre comme l'air.
Voilà. Ouais. Donc, oui, c'est important de le rappeler, que là, on trouvera tout ce qu'il faut pour vous contacter.
Voilà, ouais.
Merci.
Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Et puis voilà, vous étiez nos premières invitées pour ce premier magazine à la bonne heure. Donc merci à vous d'être venues partager ces bons moments.
Bah, merci, d'écriture. Ouais, c'est un plaisir.
Et on va se quitter avec une chanson de Mélodie Garbeau, Cry Wolf. Merci.
Merci.
Come off like a white knight, always honest, always right. You come off like a brave soul, truthful and noble, and then you go and lie to me, make me promises you can keep. Lie to me, why you always lie to me. You're quick to talk, then walk away and lie to me, make me promises you can keep. Lie to me, why you always lie to me. To me.